Bonjour à tous. Alors c'est vrai qu'on n'est pas, on n'est pas très nombreux ce matin, hein, mais ça fait rien. Attendez, je vais peut-être pousser un peu ça. Vous savez, je vais faire mon dinosaure. Quand j'étais jeune ancien à l'église, on m'avait demandé d'aller soutenir l'église de Pont-à-Mousson. Et quand je suis venu pour prêcher, ils étaient un. Il y avait une personne. Alors, c'est une petite église, hein. Mais là, on est beaucoup plus nombreux ce matin. C'est agréable. Voilà. Donc, ce matin, on va faire le dernier volet donc du combat spirituel. Et on va parler des armes de Dieu pour les chrétiens, suite et fin. Alors, voilà déjà, donc, frères et sœurs, le troisième et dernier volet du combat spirituel. Mais en tout cas, ce n'est pas le moins intéressant, en tout cas à mon point de vue, car il concerne le monde de la pensée, hein, parce qu'on est aussi, nous, impactés par nos pensées. Et ce monde intérieur est bien présent en nous, mais aussi les combats autour de la parole de Dieu, qui est, comme vous le savez, la seule et unique arme de vérité contre l'ennemi. Alors, lorsque l'on parle de combat spirituel, on parle de bataille, on parle de lutte, on parle de guerre. Alors, c'est vrai, on n'est pas dans le cadre d'un jeu de société plus ou moins agréable, hein, genre bataille navale ou échec. Hein, non, il s'agit, et j'espère que nous l'avons tous bien intégré, d'un véritable combat à la vie, à la mort, entre, d'une part, les forces spirituelles mauvaises, démoniaques et sataniques, et d'autre part, les forces spirituelles du royaume de Dieu, dont bien sûr nous faisons partie. En tout cas, je l'espère. Je ne sais pas si vous étiez là les deux premiers messages, mais après le premier message que j'ai eu l'occasion de délivrer à l'Église sur le sujet, eh bien, je suis sorti éprouvé et bouleversé par tout ce qui s'était passé à ce moment. Et je pense que je n'étais pas le seul. Hein, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Un bref rappel, il y avait une jeune fille que je voyais pour la première fois, qui était au fond, là, et qui s'est mise à pleurer très très fort et qui a voulu témoigner à la fin du culte. Et puis cet homme qui sortait de je ne sais où, hein, qui est venu perturber le culte et menacer de me frapper. C'est vrai, c'était perturbant et très déstabilisant. Pourtant, on n'aurait pas dû être ni déstabilisé ni surpris. Car en réalité, ce qui s'est passé était normal et nous aurions dû à la fois le prévoir et l'anticiper. En effet, comment peut-on imaginer que, ben, si la guerre spirituelle existe, hein, elle existe, eh bien les forces du mal acceptent tranquillement qu'on puisse parler d'elles, qu'on les dénonce, sans provoquer chez elles, eh bien, une puissante réaction. Merci Seigneur de nous avoir protégés et garder ce jour-là. Alors, c'est ce discernement qui devrait accompagner tout chrétien né de nouveau que nous devrions posséder, frères et sœurs. Nous devons voir avec nos yeux spirituels, comprendre avec le renouvellement de notre intelligence tout ce que ce monde ne peut ni voir ni comprendre. Vous savez, le lendemain du culte qui a eu lieu ici, et où vraiment il s'est passé des choses, eh bien, j'ai voulu en parler à mon travail. J'ai dit, mais j'ai une collègue qui est à l'écoute, et je vais lui en parler, et elle va comprendre. Je lui ai expliqué, et manifestement, elle n'a rien compris. Elle n'a pas compris qu'il y avait un combat spirituel, ce que c'était, etc. Et j'ai vu que, eh bien, elle ne pouvait pas saisir la réalité de ce combat et des puissances de l'ennemi, et même de la présence de l'ennemi autour de nous. Et c'est à ce moment que j'ai vraiment compris quelle est la puissance de l'Esprit qui est venu en nous, à la conversion, qui est venu habiter dans nos cœurs et nous permet de voir et comprendre à la fois la vérité et l'enjeu du combat spirituel. Oui, frères et sœurs, l'Esprit Saint nous a ouvert les yeux et nous a ouvert l'intelligence afin que nous comprenions et remportions véritablement le combat spirituel. Alors la Bible dit, 1 Corinthiens 2,14, « L'homme naturel, c'est-à-dire l'homme non converti, celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Hein, il y en a beaucoup autour de nous. Hein. Eh bien, l'homme naturel, il n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Quoi, un combat spirituel? Mais t'es ouf! C'est pas possible, ça n'existe pas. Et il ne peut les connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, avec l'Esprit de Dieu. C'est avec l'Esprit de Dieu qu'on peut juger. Vous savez, ce n'est ni par la mauvaise volonté, ni la mauvaise foi ou par méchanceté que les non-chrétiens nous prennent pour des fous, c'est simplement par pur aveuglement. C'est parce qu'ils ne voient pas. Car sans le Saint-Esprit qui illumine nos yeux et notre intelligence, on ne peut ni accepter, ni voir, ni comprendre les combats qui se mènent autour de nous et en nous. On ne peut pas les comprendre. Et c'est ce qu'affirme la Bible. Au verset 15, « Mais l'homme spirituel, c'est-à-dire vous, moi, celui qui vit selon l'Esprit de Dieu, eh bien juge au contraire de tout. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée du Christ. » Voilà ce que dit la Bible. Alors, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Nous avons la pensée du Christ. Wow, c'est extraordinaire! On a la pensée du Christ. Frères, sœurs, c'est simple. Si vous comprenez ce matin ce que je vous explique, eh bien, c'est parce que vous avez clairement la pensée de Dieu, la pensée du Christ. C'est donc à cette pensée que l'ennemi va forcément s'attaquer. Alors, si vous étiez présent lors des deux premiers messages, vous vous souvenez autour de quel axe spirituel se situe le combat, je le rappelle. Hein. Hébreux 10, 38, « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Alors, la foi nous fait vivre et nous rend agréable à Dieu. C'est parce qu'on a la foi qu'on est agréable à Dieu. Notre manque ou absence de foi lui déplaît profondément. Or, la foi, c'est quoi? Ben, c'est croire avec assurance que Dieu, déjà, il existe. Qu'il est vrai, c'est être convaincu que tout ce qu'il dit et promet dans sa parole, il l'accomplira. Et aussi que Dieu ne nous abandonnera jamais, jamais. C'est cette foi d'enfant à laquelle l'apôtre Paul appelle chacun de nous. 2 Corinthiens 5, 7. Ils sont toujours pleins de confiance, bien que demeurant dans ce corps qui les éloigne du Seigneur. Hein, tant qu'on est dans ce corps, on a des problèmes pour être près du Seigneur. Car ils marchent par la foi et non par la vue. Ça, c'est important. Parce que nous marchons par la foi et non par ce que nous voyons. Frères, sœurs, si nous voyons les choses, ce n'est plus la foi. Or, nous croyons en Dieu, en sa puissance, en sa parole, sans jamais l'avoir vu. Peut-être quelqu'un a vu Dieu ici, mais moi, non. Mais on l'a rencontré et reçu dans notre cœur. Est-ce que vous l'avez personnellement rencontré? Est-ce que vous l'avez personnellement reçu dans votre cœur? C'est à cette foi aussi que l'ennemi va s'attaquer. Paul nous dit dans Éphésiens 6 que Dieu a mis à notre disposition une arme offensive et défensive considérable, la Bible, pour combattre l'ennemi. Éphésiens 6, 17, « Prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » C'est cette épée que l'ennemi va essayer de rendre inopérante dans nos vies. Alors, le combat que vont livrer les forces du mal aux chrétiens, et que nous allons étudier à partir de trois exemples bibliques, sont, premièrement, pousser les chrétiens à marcher par la vue et non par la foi. Voilà. La deuxième, c'est s'attaquer à la pensée de Dieu pour pousser le chrétien à la désobéissance. Et puis la troisième, dénaturer la parole de Dieu. Alors, la première, pousser les chrétiens à marcher par la vue et non par la foi. Vous connaissez un exemple biblique? C'est l'exemple de Thomas. Jean 20, 24. Après sa mort, Jésus apparaît au milieu des disciples rassemblés et leur dit « Que la paix soit avec vous !» Tout en leur disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Alors les disciples furent remplis de joie. Alors vous voyez, la foi n'empêche pas non plus l'épreuve. En fait, les disciples, ils ne demandent rien pour croire. Ils savent que c'est Jésus parce qu'ils reconnaissent sa voix. Ils espéraient sa résurrection et ils sont dans la joie. Mais Thomas, lui, n'était pas présent lors de la première visite de Jésus. Mais Thomas, il avait entendu comme eux, hein. Alors, les disciples dirent à Thomas, « Nous avons vu le Seigneur !» Et Thomas va se réjouir, il va être content, il va vraiment sentir que le Seigneur est ressuscité. Alors Thomas leur répondit, verset 25, « Ah non, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » Vous vous rendez compte ? Thomas, lui, comme les autres apôtres, a entendu Jésus dire, lorsqu'il était vivant, « Encore un peu de temps et vous me verrez. » Et puis encore un peu de temps, non, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, pardon, et encore un peu de temps et vous me reverrez. Cette simple promesse aurait dû déclencher chez Thomas un élan de foi. Comme d'ailleurs chez tous les disciples, hein. Et en particulier chez Thomas. De plus, il a vécu pendant 3 ans au milieu de ses frères, les apôtres, qui ne sont pas connus pour être des menteurs ou de vils plaisantins. Alors pourquoi ne les croit-il pas ? Alors lorsque nous écoutons la voix de nos doutes intérieurs, nous éteignons le feu dévorant de notre foi en Christ. Vous la connaissez, cette petite voix intérieure ? Je ne sais pas, vous l'avez déjà entendue ? L'ennemi est un grand pourvoyeur de doutes. Lui qui est menteur et père du mensonge, il alimente les doutes de Thomas. Il doit lui dire, mais comment est-ce possible, Thomas, qu'une personne morte puisse revivre ? C'est pas possible. C'est pas logique. Alors, lorsque nous entrons dans le domaine du possible, pas possible, de la rationalité, de la logique, eh bien, nous avons forcément besoin de preuves. Il nous faut des preuves. La foi, en fait, ce n'est pas accepter de croire tout et n'importe quoi. Hein, c'est ce qu'on pense. C'est au contraire faire confiance à celui en qui on croit. Un jour, il y a un père et son fils qui chassaient les gazelles dans la forêt tropicale. Et puis, soudain, le père ordonna à son fils, « Tony, couche-toi !» Bien que surpris, le fils s'exécuta sur le champ et un coup de feu tiré par son père frappa en pleine tête le fauve qui s'apprêtait à bondir sur lui. Imaginez un instant que le fils commence à demander à son père « Pourquoi tu me demandes ça ? Donne-moi des preuves, qu'est-ce que tu veux ?» etc. Il aurait été dévoré, non ? Frères, sœurs, avons-nous besoin de voir, avons-nous besoin de toucher Jésus pour croire en lui ? Ou la présence invisible du Saint-Esprit suffit-elle ? Avons-nous besoin de preuves scientifiques ou historiques pour croire ? Ou la Bible suffit-elle ? Voulons-nous voir des miracles pour croire ? Jésus, lui, ne condamne pas Thomas. C'est beau. Il ne lui dit pas « Sors, Thomas, c'est lamentable ce que tu as fait. » Il sait que la chair est faible et que l'ennemi, en stratège, sait nous amener dans le doute pour nous amener à marcher plutôt par la vue que par la foi. Car l'ennemi sait parfaitement utiliser nos failles et nos faiblesses. Et nous avons tous des failles et des faiblesses. Alors 8 jours plus tard, Jésus se tint à nouveau au milieu d'eux, au milieu des disciples, et leur dit « Que la paix soit avec vous !» Puis il dit à Thomas « Thomas, porte ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois !» Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu !» Quelle leçon, mais aussi quelle honte pour Thomas, peut-être, de vivre cet instant. Frères et sœurs, ne prenons pas le risque d'écouter nos pensées intérieures qui nous entraînent à douter. Alors Jésus dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. » C'est un très grand combat spirituel que celui de marcher par la foi. Et il se gagne par un ardent travail de confiance en Dieu. D'ailleurs, écoutons le sage conseil de Salomon, Proverbe 3:5. Il dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre sagesse. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. » avons-nous placé notre confiance en Dieu ? Est-ce que vraiment nous avons placé notre confiance dans le Seigneur ? La deuxième chose que fait l'ennemi, il va s'attaquer à la pensée de Dieu pour pousser le chrétien à la désobéissance. Alors c'est ici l'exemple d'Adam et Ève que Paul rappelle dans les Épîtres. Dans 2 Corinthiens 11:3, écoutez bien ce qu'il dit. « De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées, ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Paul nous rappelle que ce combat spirituel se passe avant tout dans nos pensées. Rappelons un peu le contexte. Genèse 2, 15 à 25. Dieu donne cet ordre à Adam. Qui le retransmettra à Ève? Parce que Ève n'avait encore pas été formée. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, à coup sûr, tu mourras. Alors, frères, sœurs, face à un ordre de Dieu, comme c'est le cas ici, il y a deux attitudes de cœur possibles. C'est un petit peu ce que rappelait ce matin Arnaud. Alors, devant cet ordre, moi je ne comprends pas pourquoi je peux toucher à tous les arbres du jardin, mais pas à celui-là. Ça m'échappe. Mais Dieu qui sait ce que je ne sais pas, a certainement raison s'il l'interdit. Et donc il me dit, c'est interdit, je lui fais confiance, je n'y reviens pas, on n'y revient pas. Ou alors, eh bien, la deuxième attitude, c'est « je ne comprends pas pourquoi cet arbre et pas les autres. Pourquoi goûter de cet arbre nous ferait-il mourir ? On n'est quand même pas des bébés. Mais puisque Dieu l'a dit, ben, je ne vais pas y toucher. » Vous voyez, d'un côté, nous sommes dans une conviction ferme sur laquelle on ne revient pas, et de l'autre, dans un interdit plus ou moins négociable, qui est une porte ouverte à l'ennemi. Tant que l'ennemi n'intervient pas, eh bien, l'interdit tient, on ne touche pas à l'arbre, mais quand l'ennemi s'adresse à l'être humain, il va cibler nos faiblesses. Déjà, l'union faisant la force, il s'adresse à Ève seule, il va éviter Ève et Adam. C'est certainement celle qui a le plus de failles. Satan connaît parfaitement nos faiblesses, je l'ai dit. Alors il parle à Ève dans ses pensées. Vous savez, c'est ce que j'ai dit, c'est cette drôle de petite voix qu'on ne sait pas trop identifier. Est-ce que ça vient de moi ? Est-ce que ça vient de mes pensées ? Est-ce que ça vient de Dieu ou de Satan ? On ne sait pas bien l'identifier, on ne sait pas. Mais ça nous parle. Satan est d'une habileté diabolique, incroyable. Il s'adresse à Ève avec douceur. Il ne remet jamais en question ou en cause l'interdit de Dieu. Il engage la conversation avec elle afin de la flatter. Cette voix douce lui dit « Vraiment ? Vraiment ? Dieu vous a dit « Ne mangez pas du fruit d'aucun arbre, d'aucun des arbres du jardin ?» Il a vraiment dit ça, Dieu ? Alors, si l'ennemi attaque, c'est qu'il sait qu'il y a une faille profonde dans la défense d'Ève. Sans faille, elle répondrait « Nous ne mangeons pas de l'arbre de la connaissance parce que c'est interdit. Point final, au revoir, on n'en parle plus. Terminé. » Mais en réalité, la question de Satan intéresse Ève. Elle vient rejoindre des envies secrètes. Alors elle écoute la voix et dialogue avec l'ennemi. Elle ouvre grande la porte, ce qui est dangereux. C'est dangereux de laisser parler la petite voix. Ses hésitations, ses explications sont un aveu de faiblesse. Elle dit en gros à Satan, « On a l'autorisation de manger de tous les fruits, sauf de celui de la connaissance, car il paraît que si nous en mangeons, nous mourrons. » Il paraît. Et dans son intelligence diabolique, eh bien Satan a clairement compris que Ève n'a qu'un désir, elle n'a qu'une envie, c'est goûter aux fruits défendus. Mais elle a peur de s'affranchir de l'interdit. Elle a besoin que quelqu'un lui donne une permission. Alors vous savez, ce qui est arrivé à Ève, c'est vieux comme le monde. Et je vais vous raconter, moi, une expérience personnelle que j'ai vécue au tout début de ma conversion. Bon, j'en ai déjà parlé, si vous l'avez déjà entendu, c'est pas grave. Je vivais à l'époque en concubinage, donc, avec Wardia, et durant toute une nuit, Dieu m'a dit « séparation, purification, une union ». Le message de Dieu, qui avait duré pas moins de 7 heures, hein, on ne peut pas dire que je ne l'avais pas entendu, était extrêmement explicite et clair à mes oreilles et à mon cœur. Je devais me séparer de Wardia, c'était clair et précis. Et c'est ce que j'ai fait, mais je l'ai fait à contre-cœur, parce que je tenais fort à elle. Alors, la petite voix n'a pas tardé à arriver. Elle est venue dans mes pensées. Elle m'a dit, est-ce que se séparer veut dire casser? Non. Donc, revoir Wardia, ce n'est pas vivre avec elle. Oui. Alors, comme ce que disait la voix, la petite voix rejoignait ce que j'avais envie d'entendre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Wardia au téléphone pour l'inviter au restaurant, comme au bonjour. Nous sommes allés au restaurant, mais ce que j'ai fait n'a pas du tout plu à Dieu. Mais pas du tout. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Dieu voulait une séparation totale, franche, et je savais cela au fond de mon cœur. Mais je préférais écouter cette petite voix qui a rangé mes désirs. En rentrant chez moi, j'ai été rempli d'une immense tristesse, mais vraiment d'une immense tristesse. Et j'ai pleuré toute la soirée. J'avais attristé le Saint-Esprit de Dieu et c'était terrible. Franchement, j'étais obligé de m'humilier, de demander pardon et de ne jamais plus recommencer. L'ennemi rend possible ce que Dieu a interdit. Il nous déculpabilise. Il dit « c'est pas grave, c'est absolument pas grave ». Alors le serpent dit à la femme « mais vous ne mourrez point ». Recevoir avec autorité la réponse que l'on attend nous encourage à plonger dans la désobéissance. Alors, je vous ai raconté tout à l'heure que, jeune ancien à Front d'Œuvre, on m'avait demandé d'aller prêcher une fois par mois à Pont-à-Mousson. Donc, je suis arrivé et là, il y avait une personne. Mais cette personne m'a beaucoup appris. Elle m'a raconté sa... En fait, je me demande si j'ai prêché parce qu'elle m'a raconté son histoire et sa vie. Et son histoire était triste. Jeune fille engagée dans l'église, elle a rencontré un garçon qui fréquentait cette église de Pont-à-Mousson. Elle envisageait de se marier avec lui, et elle en a parlé au pasteur, elle en a parlé aux anciens. Et le pasteur l'a mise en garde. Il lui a dit, non, ce garçon n'est ni sérieux ni stable. Moi, je te déconseille de te marier avec lui. Les anciens ont dit la même chose. Mais comme ça ne lui a pas plu, elle est allée voir d'autres pasteurs, peut-être plus compétents. Et les autres pasteurs lui ont également déconseillé de se marier. Mais elle a fait toutes les églises, peut-être de France, pour trouver une personne qui lui a dit « Mais si tu l'aimes, épouse-le, car Dieu n'est pas contre le mariage. » Elle se maria, et elle m'a dit « Je l'ai regretté amèrement. » Elle a divorcé, et plusieurs années après, elle pleurait encore en me disant « Je n'ai pas écouté la voix de la sagesse et j'ai écouté la voix de mes désirs. » Et elle m'a dit, je m'en souviendrai toujours ça, « Daniel, dans tes prédications, préviens celles et ceux qui voudraient faire comme moi de ne pas le faire. » C'est ce que je fais ce matin. Personnellement, moi j'ai pris la décision de ne plus écouter la voix de mes pensées, celle qui m'amène à désobéir à Dieu. Dès que j'entends vraiment la petite voix que je reconnais, je sors tous les versets bibliques que je connais. Et en particulier, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », psaume 23, verset 1. Voilà. Dès que je l'entends, je sors la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, coupe la voix et l'action destructrice de l'ennemi. Tout de suite. La parole de Dieu, la Bible, est une arme efficace et qui fait peur à l'ennemi. Car elle est la vérité contre le mensonge, Jean 17, 17. Elle brûle nos mauvais désirs comme un feu, Jérémie 23, 29. Elle écrase les velléités de l'ennemi, Jérémie 23, 29. Ma parole est comme un marteau qui brise le roc. Dans ces conditions, ne soyons pas surpris que l'ennemi s'engage dans un combat sans merci pour rendre la parole de Dieu inopérante. Et vous savez que dans le désert, l'ennemi a lutté puissamment contre Jésus. C'était Jésus, hein, c'était pas nous, c'était Jésus. Matthieu 4. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Dis, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » L'ennemi cherche à emmener Jésus sur le terrain du fer. « Vas-y, fais un miracle !» Bien sûr, il le provoque. Dieu fait des miracles quand il le juge bon et utile. C'est Dieu qui décide quand il doit faire des miracles. Ce n'est pas à nous. Ça, c'est la seigneurie de Dieu. C'est lui qui est le décideur. 1 Corinthiens 1, 22. Les Juifs demandent des miracles. Nous, nous prêchons Jésus-Christ ressuscité. Jésus recadre l'ennemi sur ce qui est important pour Dieu et donc dans le combat spirituel. Matthieu 4, 4, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Là, voilà, il coupe directement la tentation par un verset biblique. Et il donne à Satan, comme réponse, le verset biblique, la Bible. Lire, connaître, pratiquer la parole de Dieu est une priorité. Parce que l'ennemi va essayer de nous engager dans beaucoup d'activités pour que nous n'ayons pas le temps de lire la Bible. Et puis, il va nous fatiguer, nous user pour que nous n'ayons pas ce temps. L'activité n'a pas la valeur de la connaissance biblique. Et puis, aussi, s'attacher aux miracles, aux témoignages des autres, n'a pas la valeur de la connaissance de la Bible. Voilà la question que je vous pose ce matin, c'est « Avez-vous lu la Bible plus d'une fois en entier, ou au moins une fois en entier ?» Plus d'une fois, plus de 10 fois, l'avez-vous lu régulièrement? Jésus, il en fait une nourriture spirituelle quotidienne. Et vous, est-ce que vous lisez régulièrement la Bible afin d'être purifié, d'en être imprégné et de la connaître? Toujours dans le désert, l'ennemi va transporter Jésus dans la ville sainte. Il place Jésus sur le haut du temple, comble d'ironie, hein, sur un lieu saint. C'est incroyable. Vous savez, l'ennemi, c'est un grand provocateur. Il me provoque. Je vais vous raconter franchement ce qui s'est passé. Vous savez que je vais être en retraite le 1er août. Mais j'ai fêté mon départ de Flavigny. Et... Comment ? Ah, ici. Donc, j'ai fait un petit pot de départ et il y a une collègue qui s'est avancée vers moi et qui m'a dit, Daniel, je vais te faire un cadeau personnel. Ah bon ? Ben, je dis, elle me tend un petit cadeau comme ça. Et je dis, ben, merci, c'est gentil, je l'ouvrirai à la maison. Elle me dit, non, tu l'ouvres devant tout le monde. Je dis, oui, mais bon, d'accord. Ben, écoute, parce qu'elle me dit, je veux voir ta tête. Parce qu'ils savent tous que je suis chrétien et que je lis la Bible. Je le dis à tout le monde, ils le savent. J'ouvre la... Et c'était un Kama Sutra à... vous savez ce que c'est que le Kama Sutra, hein, c'est toutes les positions sexuelles à colorier. C'est une provocation, mais qu'est-ce que vous voulez dire devant ces choses-là? Elle me dit, tâche de me le ramener demain colorié. Et vous voyez les choses de provocation de l'ennemi. C'est quelque chose de... Donc, quand vous êtes face à une provocation... Vous voyez, là, il provoque vraiment Jésus. Hein. Il lui dit, si tu es enfant de Dieu, hein, jette-toi du haut du temple et Dieu te sauvera. Et il nous dit aussi à nous, si tu es enfant de Dieu, tu peux faire n'importe quoi puisque Dieu te protège. En gros, c'est ça qu'il nous dit. Faites-le. Ceci est doublement faux car Dieu ne nous encourage pas à faire n'importe quoi. Et parce que des enfants de Dieu souffrent aussi de persécutions, de maladies et meurent aussi. Donc, ce n'est pas vrai que nous, on est protégés par Dieu. C'est pas, ça, c'est vrai, on est protégés, mais il peut nous arriver des choses. L'ennemi justifie sa demande par un passage biblique. Et il va citer à Jésus deux versets du psaume 91, sans oublier un mot. C'est la vérité. Il cite la Bible, psaume 91, versets 11 et 12. « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Il cite intégralement la Bible, donc ça veut dire qu'il la connaît aussi. Ici, l'ennemi s'attaque à notre intelligence. Avons-nous de la sagesse et avons-nous du discernement ? En réalité, ce n'est pas parce qu'un verset est cité dans la Bible qu'il veut dire ce qu'on veut lui faire dire. Un exemple, vous prenez le psaume 14, verset 1. Si on isole une phrase et qu'on la sorte du contexte, voilà ce que nous avons. Il n'y a point de Dieu. La Bible dit « il n'y a point de Dieu ». Mais en réalité, on a oublié de citer le début de la phrase. L'insensé dit en son cœur « il n'y a point de Dieu ». Ce n'est pas la même chose, ça veut pas dire pareil. L'ennemi ici fait pire. Il manipule le sens du psaume. Ce que cherche l'ennemi, c'est de nous entraîner à tenter Dieu, et cela sous le couvert de la Bible. Tenter Dieu, c'est grave, car c'est l'obliger à faire ce qu'il n'a pas promis, ce qui n'est pas dans sa volonté. Ici, le diable dit « Vas-y, suicide-toi et Dieu te protégera ». Dit comme ça, ça paraît peu sérieux. On dit « jamais on ferait des choses comme ça, nous ». Mais on a vécu des expériences au sein des églises qui sont de cet ordre. Oh, j'en citerai qu'une. Jette tes lunettes, jette tes médicaments, Dieu va te guérir. Il y a eu des procès même aux États-Unis où des jeunes diabétiques sont morts parce que les parents ont jeté les médicaments en disant « avec Dieu, il sera guéri ». On peut utiliser la parole de Dieu à contresens, en lui donnant un sens et une vérité que Dieu ne veut pas lui donner. Connaître, lire la parole de Dieu, ça, c'est important, c'est bien, il faut le faire. Mais avec discernement, en comprenant le sens profond qu'a voulu lui donner Dieu. Pour cela, laissons-nous guider et inspirer par le Saint-Esprit qui seul nous dirige dans la vérité. Et je vais conclure par ce dernier verset. Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Voilà. Si nous, on se laisse guider par le Saint-Esprit et que vraiment on est profondément ancré dans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire de contresens sur la Bible. C'est pas possible. Voilà. Je termine ici donc le combat spirituel. Mais moi, je vous engage à pas abandonner le combat spirituel. Il faut continuer parce que l'ennemi ne nous lâchera pas jusqu'au bout. Je vais prendre un moment, si vous voulez. On va prier ensemble pour ce moment. Seigneur, je te remercie pour toutes les fois où tu nous as protégés, tu nous as gardés, où ta parole, Seigneur, nous a fait du bien. Merci Seigneur parce que tu es le protecteur de nos vies physiques mais aussi de nos vies spirituelles. C'est toi qui nous fais remporter la victoire. Seigneur, tu nous protèges, tu nous gardes, tu dresses devant nous des barrières, des boucliers Seigneur pour empêcher les agressions de l'ennemi. Merci Seigneur parce que avec toi nous sommes plus que vainqueurs. Toi Seigneur, tu as vaincu la mort, tu as vaincu l'ennemi et tu es ressuscité. Et aujourd'hui Seigneur, c'est un Dieu vivant que nous avons avec nous et en nous. Et merci, Seigneur, de nous encourager, de nous relever et de nous fortifier, Seigneur. Béni soit ton nom puissant. Gloire à toi, mon Dieu. Amen. Amen.